Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Le 17 octobre 1983, au bas des marches du palais de justice de Paris, alors qu'il montait dans une voiture, Raymond Aron s'écroule, victime d'une crise cardiaque. L'auteur de L'opium des intellectuels venait de témoigner au procès de Bertrand de Jouvenel contre l'historien Zeev Sternhell. Sternhell voyait en Jouvenel, je cite, une réplique française presque parfaite d'Oswald Mosley, fondateur de l'Union des fascistes britanniques. Raymond Aron, malheureusement, n'eut pas la satisfaction de connaître le verdict en faveur de Jouvenel, qu'il appréciait beaucoup. Il avait glissé au journaliste Marc Ullmann au fond de la salle d'audience « Je crois que je suis arrivé à dire l'essentiel ». Pourtant, dire l'essentiel sur Bertrand de Jouvenel n'était pas une tâche facile. Fils d'Henri de Jouvenel, journaliste et homme politique français, le nom de Bertrand de Jouvenel est associé aux femmes et aux hommes des mondes littéraires et politiques ayant marqué ce siècle. De Colette à Drieu-La Rochelle, en passant par Emmanuel Berle, de Beneš ou de Milan Štefanić, père de la Tchécoslovaquie, à Adolf Hitler ou à Lloyd George, on est surpris par la foisonnante galerie de portraits que ce journaliste a rencontrés au cours de son existence. Jouvenel peut aussi nous apparaître déroutant. Issu de la gauche radicale, il se dirigea ensuite vers le Parti populaire français de Doriot. Tenté par le fascisme, il en reviendra pour s'imposer comme un des pionniers de l'écologie, mais aussi comme un libéral apprécié encore aujourd'hui outre-Atlantique ou bien encore au-delà des Alpes en Italie. Je vous propose de partir à la découverte d'un personnage complexe, un personnage dont on aurait tort de dresser le portrait en quelques jugements cinglants, un personnage que Raymond Aron qualifiait d'homme de bonne volonté qui, je cite, s'est toujours efforcé de regarder le présent en pensant à l'avenir. Olivier Dard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Vous nous venez de Metz, vous êtes professeur à l'université Paul Verlaine, donc à Metz, et vous êtes un spécialiste, donc disons des années 20 aux années 60. Vous allez publier chez Perrin La Synarchie, le mythe du complot permanent et Voyage au cœur de l'OAS. Et vous venez de publier chez le même éditeur, donc chez Perrin, une biographie de Bertrand de Jouvenel. Alors, Jouvenel écrivait « Je vois mal pourquoi l'on s'intéresserait à l'histoire de ma vie, n'y portant moi-même aucun intérêt. » Est-ce que ce constat était vrai ?
Pas exactement, parce que, effectivement, c'est ce que Bertrand de Jouvenel a écrit dans ses cahiers inédits que j'ai beaucoup utilisé pour écrire ce livre. Simplement, Bertrand de Jouvenel, tout en disant qu'il ne s'intéressait pas à sa propre vie, que sa propre vie était inintéressante, en même temps, était extrêmement attentif à ce qui s'écrivait sur lui. Et par conséquent, je crois qu'il avait une certaine opinion de lui-même, et en particulier de son œuvre de penseur politique. Et je pense qu'il craignait peut-être le futur travail de l'historien, mais j'ai du mal à croire à la sincérité
Une fausse modestie.
Je pense qu'il y a une part de fausse modestie, même si ce propos émane de son journal intime.
Il y a tellement de choses à dire parce que c'est véritablement une vie foisonnante, extraordinaire que vous décrivez. Une vie à la fois politique, une vie littéraire, une vie à plusieurs engagements. Nous reviendrons sur cette idée, à savoir était-il oui ou non un opportuniste. Commençons par le commencement. Donc, c'est un personnage qui naît en 1903 et je le disais dans mon introduction, c'est le fils d'Henri de Jouvenel. Donc il vit dans une ambiance très, très, très mondaine au départ.
Alors, il vit où il aurait dû vivre. C'est-à-dire qu'il est effectivement issu d'un couple en apparence extrêmement favorisé, Henri de Jouvenel, que vous avez évoqué tout à l'heure. Il est également le fils de Sarah Boa, qui est la fille elle-même d'un industriel juif que Henri de Jouvenel a connu au moment de l'affaire Dreyfus. Et c'est donc un couple mondain, brillant, qui a comme fils unique le jeune Bertrand. J'ajouterais que Bertrand a aussi un oncle, Robert de Jouvenel, qui, comme son frère Henri, est une des grandes figures de la presse Suisse des années 1900-1920. Simplement, le jeune Bertrand va assister, impuissant, alors qu'il est tout enfant, au divorce de ses parents. Et de ce point de vue, loin d'avoir eu au fond une vie très socialisée comme enfant, c'est plutôt un enfant solitaire qui, comme il l'a raconté d'ailleurs, erre un petit peu dans le grand appartement du boulevard Saint-Germain. C'est un enfant qui n'est jamais allé à l'école. Il n'est d'ailleurs pratiquement pas allé au lycée. Ce qui est important pour la suite, c'est quelqu'un au fond qui a été élevé par des précepteurs, qui s'est construit assez largement seul. Et il y a dans sa formation intellectuelle une dimension d'autodidacte qui est importante. Et il a en fait principalement croisé et surtout connu son père lorsqu'il était adolescent, beaucoup plus que lorsqu'il était enfant. Il raconte que parfois une bonne l'amenait aux Tuileries, que son père le voyait très rapidement, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin parce que son père était quelqu'un d'extrêmement occupé.
Oui, oui. Un père absent.
Relativement absent, pas complètement, hein, mais relativement absent.
Et alors, il était proche de sa mère ?
Alors, il était proche de sa mère. Il lui a téléphoné tous les jours jusqu'à la mort de cette dernière dans les années 60. Il était à la fois très attaché à sa mère, d'après ce qu'on peut lire dans son journal ou dans de la correspondance, mais en même temps, sa mère l'agaçait. Et en particulier, sa mère l'agaçait lorsqu'il était adolescent parce qu'elle voulait constamment l'emmener avec elle dans une multitude de soirées mondaines. Il faut dire qu'elle-même tenait un salon tout à fait important. Elle voulait l'emmener au golf, etc., etc. Et lui préférait, explique-t-il, la lecture, la réflexion, une part de solitude.
Alors, le couple Jouvenel tient peu de temps, enfin non pas peu de temps, hein, finalement il y a peut-être une vingtaine d'années de mariage.
Beaucoup moins, parce qu'il a, en fait, ils ont divorcé. Alors après, il y a eu des tas de problèmes sur l'emploi du nom, enfin aucune importance, mais ah non, parce qu'Henri de Jouvenel a ensuite épousé Colette.
Voilà, exactement. Donc, et Colette, très vite, devient un personnage important de la vie de Bertrand.
Alors, elle devient un personnage, oui, dans tous les sens du terme, très important de la vie de Bertrand de Jouvenel, ou plutôt de l'adolescent et du jeune adulte, parce que sa mère, Claire Boa, envoie en fait un peu Bertrand en éclaireur, comme il l'a raconté, au domicile donc d'Henri de Jouvenel et de Colette, pour voir un petit peu comment la situation se passe, se faire un peu une opinion, car en fait, Claire Boa tient quand même à continuer à porter le nom de Jouvenel. Et Colette rencontre le jeune Bertrand, donc c'est son beau-fils, et très rapidement, une relation très étroite et même intime se noue entre Bertrand et Colette, puisque jusque vers 1925, c'est-à-dire jusqu'au moment où Bertrand a largement passé la vingtaine d'années, Bertrand, Jouvenel et Colette vont être amants, donc de son âge de 16 ans à peu près, à 22-23 ans. Alors, bon, cette histoire a beaucoup défrayé, y compris la chronique mondaine de l'époque. Je crois que l'influence de Colette sur Bertrand, Jouvenel est double. Il y a bien sûr toute cette initiation sentimentale, sexuelle, etc., sur laquelle bon, je ne tiens pas à m'étendre. En revanche, il y a d'autres éléments qui me semblent très importants, tels qu'on les retrouve d'ailleurs à partir des hommages que par la suite Bertrand Jouvenel a rendus à Colette. C'est en particulier l'importance que Colette a eue pour lui faire découvrir la nature, les paysages, les odeurs, etc. Et je pense qu'on aura peut-être une grande sensibilité à la nature et on aura peut-être l'occasion d'y revenir à la fin. Je crois que dans la dernière phase de l'itinéraire de Bertrand de Jouvenel, qui est sa phase écologique, Colette, d'un certain point de vue, me semble-t-il, a joué un rôle.
Vous parliez de la prière, justement. L'époque, il faut rappeler donc que Jouvenel est né en 1903. Quand la guerre éclate, il a 11 ans. Quand la guerre se termine, il a 15-16 ans. Et il écrit, j'allais dire, de manière assez, non pas désabusée, peut-être cinglante, l'histoire des 18 mois qui suivirent l'armistice n'est que l'histoire de retour du monde ancien, rappelé à la vie par les hommes anciens qui demeuraient au gouvernail national. C'est donc pour la jeunesse de la guerre l'histoire d'une terrible et écrasante déception. Et cette idée est très très importante parce que le mot le plus important de cette citation, c'est le mot de jeunesse. Et la jeunesse fait partie tout au long du cursus intellectuel de Jouvenel, la jeunesse a une place primordiale.
Absolument. C'est tout à fait fondamental. Et je dois dire que si je me suis intéressé à Bertrand Jouvenel, c'est parce que j'avais publié il y a quelques années au PUF un livre sur le rendez-vous manqué des relèves des années 30, donc toutes ces jeunes générations intellectuelles de l'entre-deux-guerres. Et Bertrand Jouvenel compte parmi elles comme une figure, je dirais, à la fois emblématique et presque archétypique. C'est-à-dire que Jouvenel est véritablement l'archétype de cette génération. D'abord, il en a l'âge, bien entendu, mais il a personnellement la conviction que c'est à la jeunesse qu'il appartient de construire l'avenir. Et il l'a très vite. Il l'a très vite, cette conviction, et il va la partager avec toute une série d'autres jeunes gens de son âge, toute cette génération réaliste qu'il va côtoyer, en particulier le journaliste Jean Luchaire, qui est très proche de Bertrand Jouvenel pendant toutes ces années-là. Et il pense que non seulement il appartient à la jeunesse de construire l'avenir, mais il pense qu'il faut absolument relier entre elles les jeunesses d'Europe, ce qui explique tout l'intérêt que Bertrand Jouvenel prend rapidement pour le rapprochement franco-allemand, mais un rapprochement qui passe par les mouvements de jeunesse et qui va lui permettre d'ailleurs de côtoyer Otto Abetz, à l'époque responsable allemand de mouvements de jeunesse, mais futur ambassadeur du Reich à Paris pendant la guerre.
Comme d'ailleurs il y en a eu après la guerre de 1870, en tous les cas dans les années 1880, avec les associations de jeunesse. En voyant votre ouvrage, Jouvenel dit « c'est en 1917 que je me suis trouvé avec une opinion bien prononcée ». En l'occurrence, cette opinion, c'était qu'il se posait contre le jusqu'au boutisme. Il y a à la fois cette idée de jeunesse, cette idée d'avenir, cette volonté de réconciliation franco-allemande. Est-ce qu'on peut parler chez Jouvenel d'un certain pacifisme également ?
Alors, bon, premier élément à signaler quand même, c'est que bon, la citation que vous donnez, elle est juste. Elle émane très clairement de Bertrand Jouvenel, mais elle est très postérieure. On ne dispose pas de texte.
Il a quand même 14 ans.
Voilà, oui, ouais. Non, mais le problème, c'est que cette citation, elle n'est pas écrite quand il a 14 ans. Il en a beaucoup plus, donc il y a une part de reconstruction. Alors, une dimension pacifiste ou d'un certain point de vue, oui, absolument. Mais à cet égard, Bertrand Jouvenel, on est au tout début des années 20, à la fin des 1918-1920, Bertrand Jouvenel est tout à fait, à ce moment-là, le produit de son milieu. C'est-à-dire qu'il va, comme son père, comme son oncle, comme cette jeune génération réaliste qu'il va progressivement côtoyer, être acquis à l'idée de paix, à l'idée du rapprochement franco-allemand, à une certaine fascination, il faut bien le dire, pour la société des nations. Et à cet égard, toutes les thématiques de la paix par le droit, etc., lui conviennent parfaitement. Et c'est dans ce milieu qu'il va faire ses premiers pas politiques, encouragé, amené par son père et par son oncle. Donc effectivement, à l'aune des critères de l'époque, effectivement, il y a un pacifisme jouvenelien, mais qui n'a rien d'original dans ce type de milieu.
Alors justement, quelle est la nature de cet engagement politique ? C'est ce que nous allons voir, Olivier Dard, après cette première pause. Nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Academy vous propose un grand entretien avec Michel Serres de l'Académie française sur la notion d'identité. Quelle différence entre identité et appartenance ? Qu'est-ce que l'hominescence ? Quel rapport entretenons-nous avec notre corps ? Autant de questions auxquelles répond Michel Serres dans une émission Éclairage en libre téléchargement sur Canal Academy.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Olivier Dard, auteur d'une biographie, Bertrand de Jouvenel. Nous avons évoqué, Olivier Dard, la jeunesse, le milieu donc de Bertrand de Jouvenel, fils d'Henri de Jouvenel. Et nous avions laissé nos auditeurs sur l'engagement politique donc de Bertrand de Jouvenel qui, par certains aspects, n'est pas original et correspond au fond à l'époque, et qui, par certains autres aspects, va être beaucoup plus original. C'est ce que nous allons voir au cours de cette deuxième partie. L'engagement de Bertrand de Jouvenel est au départ radicaliste ?
Oui, il est radical. Il est très clairement dans la nébuleuse radicalisante, comme son père, son oncle. Mais ce qu'il y a d'important chez lui, à noter, c'est que si le père et l'oncle, au fond, l'ont mis en quelque sorte sur les rails, y compris professionnels, en faisant de lui un journaliste, il s'est rapidement fait un prénom. Il s'est rapidement fait un prénom dans ce monde de la jeunesse réaliste. Il a réussi à capter l'intérêt et la confiance de Jean Luchaire. Guerre, je le disais, mais aussi de personnes comme Émile Roche. Il connaît Pierre Drieu-La Rochelle. Il devient l'ami d'Emmanuel Berle, donc d'Alfred Fabrelus. Donc toute une série de gens promis à un avenir certain à ce moment-là. Et dans son attraction pour le Parti radical, il faut bien prendre en considération le fait que Bertrand de Jouvenel, comme les jeunes radicaux de l'époque, aspire à profondément renouveler l'image et le contenu même du Parti radical. C'est-à-dire qu'il pense que ce Parti radical, qu'il verrait très bien dirigé par Édouard Daladier, ce qui se produit après le congrès de 1928, ce Parti radical gagnerait à avoir un programme profondément transformé. Et le programme que préconise Bertrand de Jouvenel, en particulier dans son premier essai, L'économie dirigée, paru en 1928, est un programme qui fonctionne sur trois idées. D'abord, sur le plan politique, comme l'expliquent les réalistes, il faut réformer en profondeur l'État, institutions politiques et administration. Il faut, sur le plan économique, moderniser l'économie française, en particulier en s'inspirant du modèle américain, c'est-à-dire permettre en particulier un développement de la rationalisation économique, industrielle notamment. Et enfin, sur le plan international, il s'agit de travailler à l'idée d'une paix en Europe autour de la SDN, du rapprochement franco-allemand, etc. Et Bertrand de Jouvenel, au Parti radical, joue un rôle important. Il écrit dans une de ses grandes revues, Notre Temps. Il va être le rédacteur en chef du journal La Voix. Et il va même, ce qu'on sait peu, se présenter aux élections pour la première fois en 1928, où il obtient un score tout à fait insuffisant. Il est battu par un candidat conservateur, mais il s'était présenté, c'est un des plus jeunes candidats de France, il s'était présenté en Normandie dans une circonscription où sa belle famille avait une propriété.
Alors comment, puisque je le disais en introduction, on a aussi l'image d'un engagement vers le fascisme. Comment, alors le fascisme déjà, vous le rappelez dans votre ouvrage, c'est une idée qui aujourd'hui est totalement dehors du débat politique, mais c'est une idée qui est dans le débat politique dans les années 20 et dans les années 30.
Absolument.
Voilà, qui internationalement d'ailleurs est reconnu, on connaît le mot Churchill à cet effet. Comment Jouvenel passe au fond de Daladier à Doriot?
Alors, il passe de Daladier, alors avant de passer d'ailleurs par Doriot, il a fait un petit tour, même s'il ne l'a pas officialisé, du côté du lieutenant-colonel de Larocque. Je vais y revenir dans un instant. Mais il passe au fond de la gauche radicalisante à une attraction vers le fascisme, à un moment très précis, très identifiable, qui est le début des années 30, et en particulier la crise du 6 février 1934. La crise du 6 février joue chez lui un rôle fondamental de détonateur, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il lance d'ailleurs son premier journal, La Lutte des Jeunes, qu'il pense qu'il faut transformer vraiment en profondeur le système et que le Parti radical est dorénavant inapte, et jugé par lui inapte à le faire. Il va d'ailleurs quitter le Parti radical à ce moment-là. Alors, c'est important parce que à partir de janvier-février 1934, pour Bertrand de Jouvenel, au fond, la situation est plastique. Tout est possible. Tout est possible. Sa seule certitude, c'est qu'au fond, le système démocrate-libéral est allé au bout de ses potentialités. Il faut donc trouver autre chose. Alors, il n'a jamais été attiré par le communisme. Il a eu quelques amitiés au Parti socialiste, notamment du côté des néo-socialistes avec Marcel Déat. On va retrouver Déat un peu plus tard d'ailleurs. Et quant au fascisme, effectivement, vous le disiez avec justesse, c'est une idée qui est dans l'air du temps. En particulier, le fascisme envisagé comme une des réponses économiques et sociales à la crise. Et Bertrand de Jouvenel s'y intéresse de près. Et lorsqu'il s'intéresse au fascisme, il s'intéresse au fond principalement à ce que le fascisme propose sur le plan économique et social. En particulier, il réfléchit, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, en même temps que lui, y compris Mussolini d'ailleurs, et Léon Blum également, à ce que l'on pourrait éventuellement opérer comme parallèle entre le New Deal de Roosevelt et la politique menée sur le plan économique et social en Italie. Alors aujourd'hui, dire ça, évidemment, en 2008, ça paraît quelque chose d'aberrant, mais du point de vue des contemporains de l'époque, c'est quelque chose de tout à fait classique. Et donc, Bertrand de Jouvenel pense qu'il y a des possibilités de ce côté-là. Il faut dire qu'il cherche aussi, et le passage par Daladier est important, il cherche aussi, depuis les origines, au fond, à incarner son projet politique, à incarner son projet dans un homme. Et ça, c'est un deuxième, évidemment, élément important. Il a véritablement cru en Daladier. Il n'était pas le seul. Daladier l'a déçu. Il va à un moment penser que le lieutenant-colonel de Larocque est une figure capable de rassembler. Mais les deux hommes vont se brouiller parce que Larocque ne va pas apprécier un article de Jouvenel. Enfin, je passe sur les détails. Et ensuite, en 1936, on le retrouve chez Jacques Doriot, donc le fondateur du Parti populaire français. Et là, Bertrand de Jouvenel, effectivement, il fait plus que côtoyer. Il est une des figures importantes d'un parti que l'on considère comme le parti qui est l'expression même d'un fascisme français.
Il y a deux aspects qui me semblent importants dans votre analyse de son œuvre, qui sont d'ailleurs étonnamment réalistes et montrent finalement sa capacité d'observation. C'est qu'il considère le fascisme comme une révolution. Après la révolution luthérienne, après la révolution française, il y aura une sorte de troisième temps qu'est la révolution fasciste. Et puis surtout, incroyable lucidité, notamment par rapport au futur Aron, c'est qu'il considère le fascisme comme une religion politique. Il y a un aspect religieux qui devient important dans l'œuvre de Jouvenel.
Absolument. Bon, les trois mots que vous avez employés sont fondamentaux. Une révolution, oui. Bertrand de Jouvenel pense que le fascisme est une révolution, de même qu'il a voulu voir le national-socialisme, au moins à ses débuts, comme une révolution. Une révolution possible, ce qui permettait évidemment d'excuser un certain nombre d'excès, entre guillemets, du régime, des débuts du régime, au nom justement de cette potentialité révolutionnaire du national-socialisme. La question du temps est très importante. Bertrand de Jouvenel a écrit un texte inédit sur le temps du fascisme que je cite dans l'ouvrage. C'était le texte d'une conférence. Et ce temps du fascisme, cette idée d'un temps du fascisme, elle est pour lui fondamentale. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas le futur qu'il a souhaité, le fascisme, mais manifestement, c'est ce qui attend. Et par conséquent, il faut s'y adapter. Et quant à la religion politique, bon, les travaux d'Emilio Gentile ont mis en particulier l'accent sur cette question. Force est de constater que si d'aucuns s'intéressaient à la genèse du concept, Bertrand de Jouvenel, en la matière, est intéressant parce que lui perçoit très bien, il l'écrit d'ailleurs dans un certain nombre de textes, il l'écrit effectivement, le fascisme peut être considéré comme une forme de religion politique et à cet égard, il l'écrit notamment dans Le Réveil de l'Europe, c'est une observation tout à fait fine et alors là beaucoup moins commune que celle que nous avons pu déjà évoquer à son sujet.
Alors la rupture avec la gauche date de 1933, d'automne de 1933, c'est ce que vous écrivez. Bon, donc évidemment, 1933, arrivée d'Hitler au pouvoir. Comment Jouvenel considère le fascisme allemand dans ce contexte si particulier qu'il est particulièrement lié à cette Allemagne avec qui il tient à se réconcilier et il a des liens en Allemagne, il est notamment lié à Otto Abbes.
Alors, bon, vous employez l'expression fascisme allemand, on pourrait, oui. Bon, moi je préfère parler de national-socialisme.
Parlons de national-socialisme.
Fascisme italien et de national-socialisme. Bon, cela étant, par rapport à Abetz et par rapport à ses liens avec l'Allemagne, ce qui est très important de voir, c'est que pour Bertrand de Jouvenel, au fond, le 30 janvier 1933, donc le jour de l'avènement d'Adolf Hitler au pouvoir, ne marque absolument pas une césure. Et au contraire, il va continuer, il n'est pas le seul d'ailleurs à ce moment-là, à vouloir garder le contact avec l'Allemagne, et en particulier à garder le contact avec la jeunesse allemande. Alors là, on entre effectivement dans un épisode qui est à la fois passionnant quant à l'histoire des réseaux et de toutes ces itinéraires croisés entre responsables de mouvements de jeunes en Europe et en particulier en France et en Allemagne. Mais par-delà tout ce qu'on peut en tirer, du côté de Bertrand de Jouvenel, on voit qu'il y a en même temps chez lui alors là une forme d'aveuglement. C'est-à-dire que ce qu'il ne comprend pas et ce qu'à mon avis il n'a jamais imaginé, je pense qu'il aurait eu beaucoup de mal à l'admettre, c'est au fond que Abetz ait pu le manipuler. Et alors là, quand on regarde les deux itinéraires en parallèle, c'est tout à fait éclairant. C'est-à-dire que Abetz, lui, devient de plus en plus une figure importante du bureau Ribbentrop, etc., etc., travaillant pour le compte du régime. Bertrand de Jouvenel, lui, pense toujours qu'il a affaire à Otto Abetz, celui qu'il a connu en 1930, qui était une des figures de la jeunesse de gauche, etc., etc. Et Bertrand de Jouvenel va pousser les feux pour permettre en particulier au mouvement de jeunesse franco-allemande de se rencontrer. Et il va lui-même faire le déplacement à Berlin avec Drieux. Et là, ils vont se retrouver avec des responsables de la jeunesse hitlérienne. Bon, je raconte tout ça dans le livre, on y reviendra peut-être pas en détail ici. Mais le contraste est absolument saisissant. Et un certain nombre de jeunes qui accompagnent Jouvenel, de responsables de mouvements de jeunesse, eux vont quitter le navire, alors que Jouvenel, lui, va continuer jusqu'au bout à penser que Abetz, au fond, est quelqu'un de sincère avec qui il faut dialoguer avec l'Allemagne, etc. C'est ce qui d'ailleurs amène Abetz à proposer à Jouvenel le célèbre entretien avec Hitler de 1936.
Alors, avant de venir à cet entretien, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe par rapport à ce que vous venez de nous dire, et l'idée quand, bon, donc 30 juin 1934, la nuit des longs couteaux, est-ce que, au fond, Jouvenel ne se rend pas compte de la réalité que constitue le national-socialisme ?
La question est très intéressante sur la nuit des longs couteaux, parce qu'en fait, ce qu'il en retient principalement, il est très déçu par la nuit des longs couteaux, mais pas forcément pour les raisons qu'aujourd'hui on imaginerait, c'est parce qu'il déplore au fond le virage conservateur. C'est ça qu'il retient de la nuit des longs couteaux. C'est-à-dire, il dit au fond, ça renvoie à von Papen, etc.
Ouais.
Il dit au fond, finalement, c'est une forme de normalisation. Ce national-socialisme qui était une révolution, est-ce que ce n'est pas une révolution définitivement avortée, etc., etc. C'est dans cette perspective-là, si vous voulez, qu'il s'engage, plus qu'au fond dans une condamnation du principe même de la purge. Parce qu'encore une fois, on est dans un discours sur les révolutions qu'on connaît fort bien, où on justifie un certain nombre de prises de position ou d'erreurs nécessaires dans un processus révolutionnaire. Hein, c'est tous les discours sur la nécessité qu'on connaît bien depuis la Révolution française.
Alors je renvoie nos auditeurs à cette partie qui est très importante de l'ouvrage, puisqu'elle pose bien évidemment la question de la nature du socialisme dans le national-socialisme. Et j'en viens directement à cet entretien, puisqu'il y a eu un entretien, mais j'allais dire... On pêche par anachronisme parce qu'on s'imagine devant Adolf Hitler à lui poser certaines questions, alors que c'est un entretien très classique d'un journaliste en face d'un chef d'État et qui s'inscrit dans un contexte particulier et qui est politique. Et Hitler se sert du journaliste comme tout homme politique aujourd'hui encore sait servir des journalistes.
Absolument. Alors, trois éléments pour cadrer au fond cet article et cet entretien. Bon, premier élément, effectivement, c'est que Jouvenel est un journaliste et c'est même un des reporters les plus en vue de la France de l'entre-deux-guerres. Et par conséquent, Bertrand de Jouvenel a interrogé une foultitude de dirigeants politiques, dont Adolf Hitler. Bon. Deuxième élément important, c'est que cet entretien, il n'est nullement le fruit du hasard. Il est au fond une initiative presque conjointe de Abetz et de Jouvenel. Pour Jouvenel, qui est journaliste à Paris Soir, c'est entre 800 000 et 1 million d'exemplaires. Bon, c'est un journal d'une importance considérable à l'époque. C'est un coup extraordinaire parce que Adolf Hitler, très peu de journalistes ont pu l'interroger, très peu de journalistes français. Et Abetz, lui, va évidemment, alors là, en liaison avec les services du Reich, va voir tout l'intérêt de l'opération. Alors, ça se déroule curieusement. Il faut imaginer ce milieu. Jouvenel fait du ski à Garmisch. Abetz prend contact avec lui, lui dit écoute, voilà, est-ce que tu peux venir ? Il se tutoie. Est-ce que tu peux venir interroger donc le Führer ? Bertrand Jouvenel arrive à Berchtesgaden. Gadon fait son entretien. Il en ressort d'ailleurs plutôt satisfait. Il dresse d'Adolf Hitler un portrait plutôt favorable. Simplement, je rappellerai que quand on regarde d'autres portraits dressés à la même époque d'Adolf Hitler, le portrait de Jouvenel n'a rien d'extraordinaire. Et de ce point de vue, comme vous le disiez, attention à l'anachronisme. Sauf que quand Bertrand Jouvenel fait cette interview, il le fait au moment de la ratification du pacte franco-soviétique. Et la grande idée d'Adolf Hitler et des services du Reich, c'est de faire en sorte que cet article paraisse juste avant le débat qui doit avoir lieu au Parlement français, car le message qu'Adolf Hitler veut faire passer dans cette interview, c'est qu'il est un homme de paix, qu'il ne cherche pas la guerre avec la France, etc., etc., et qu'à l'inverse, il verrait d'un très mauvais œil, au fond, un rapprochement entre la France et l'Union soviétique, qui ne serait pas sans rappeler la vieille alliance franco-russe, etc., etc. Alors, Jouvenel quitte le Führer et Abetz plutôt content de lui et de l'entretien. Ce qu'il ne sait pas et qu'il va découvrir par la suite, c'est que dans le même temps, Abetz lui arrive à Paris en réclamant de la direction de Paris Soir qu'elle fasse paraître l'article avant, donc juste avant la ratification, le débat de ratification, la direction de Paris Soir refuse et finalement l'interview est parue dans Paris Midi. Alors là, le tirage n'est plus du tout le même, 100 000 exemplaires et cet entretien qui devait être un véritable coup journalistique, qui a beaucoup marqué par la suite et en particulier la mémoire, éternit l'image de Bertrand de Jouvenel, pour les contemporains, est un entretien qui passe, je ne dis pas inaperçu, hein, n'exagérons pas, mais qui n'a, cela étant, pas du tout l'impact qu'il aurait dû avoir.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Olivier Dard, historien, auteur d'une biographie consacrée à Bertrand de Jouvenel, parue aux éditions Perrin. A tout de suite.
Vous écoutez Canal Academy, la suite de votre programme dans un instant.
Nous entamons la troisième partie de cette émission consacrée à Bertrand de Jouvenel. Olivier Dard, vous avez écrit une biographie sur ce personnage, une biographie parue aux éditions Perrin. Alors nous avons évoqué sa jeunesse, nous avons évoqué son engagement politique et nous avons laissé nos auditeurs sur l'idée qu'il avait rencontré Hitler. Il manque d'une certaine lucidité vis-à-vis de l'hitlérisme et du national-socialisme. Quelle est sa position sur tous ces jalons, j'allais dire, à partir de 1936, la remilitarisation de la Rhénanie, les accords de Munich, l'Anschluss? Est-ce que ces jalons constituent une remise en cause de sa vision, ou plutôt sa volonté pacificatrice à l'égard de l'Allemagne?
Alors, si Jouvenel, effectivement, est un germanophile, incontestablement, on va le retrouver dans le comité France-Allemagne, etc., il est en même temps extrêmement déçu par la politique extérieure française, à laquelle, d'ailleurs, il reproche une absence de fermeté. Et de ce point de vue, je cite à un moment une conférence qu'il fait au Théâtre des Ambassadeurs, après donc le fameux interview, et où Bertrand de Jouvenel, au fond, dit « Mais finalement, ce n'est pas en ayant une politique de faiblesse vis-à-vis de l'Allemagne que l'on peut espérer s'en sortir. » Cela étant, sur le plan de ses options en politique internationale, on peut considérer effectivement qu'il se situe dans une perspective pacifiste jusqu'à Munich. Car là où il y a un tournant, c'est avec Munich. Munich, à l'occasion de Munich, Bertrand de Jouvenel prend une position très clairement hostile aux accords de Munich. C'est d'ailleurs une position qu'il va défendre.
Ce qui est une position originale, parce qu'à la Chambre, il n'y a que les communistes qui votent contre eux. Et oui, quelques autres, dont
Henri de Kérilis.
Henri de Kérilis, voilà.
Et Bouet du côté socialiste. Alors, Jouvenel, effectivement, en proposition contre les accords de Munich. Donc, il quitte à ce moment-là, il va quitter dans la foulée le Parti populaire français. Un Parti populaire français, d'ailleurs, très divisé sur cette question. Pourquoi est-ce que Jouvenel prend position contre les accords de Munich? Alors, c'est compliqué au fond à analyser, parce qu'effectivement, il faudrait se défier plutôt d'une approche rétrospective en disant au fond, Bertrand de Jouvenel a très clairement compris l'importance du danger hitlérien, etc. Enfin, il se réveille. C'est pas tout à fait ça. Il y a d'abord une première chose qui le choque profondément dans la ferme de Munich, c'est finalement le traitement de la Tchécoslovaquie. Jouvenel, vous le rappeliez tout à l'heure à propos de Beneš, Štefánik, etc., Jouvenel a grandi dans le culte de la Tchécoslovaquie. Et voir les accords de Munich, voir le drapeau français brûlé, enfin ça il l'a raconté devant les cadres du Parti populaire français, c'est quelque chose pour lui de traumatisant et ça renvoie aussi à un des traits de sa personnalité, c'est quelqu'un d'assez sensitif et là on le mesure tout à fait. J'ajouterais, cela étant, que ce n'est pas une simple émotion qui fait de lui un munichois, ça va en même temps le conduire à des engagements très précis, puisque c'est à partir des accords de Munich et donc de l'automne 1938 qu'il va devenir un honorable correspondant, comme on dit à l'époque, des services de renseignement français, mettant sa capacité à voyager dans toute l'Europe en tant que reporter au service du deuxième bureau qui va lui demander sur toute une série de points de communiquer des rapports et de donner au fond un certain nombre de renseignements qu'il peut glaner au cours de ses voyages.
Alors, la guerre éclate, vous le disiez tout à l'heure, il est critique à l'égard de la politique extérieure de la France. Bon, finalement, cette guerre éclate. Il y a un pessimisme certain chez lui. Il ne croit pas en la victoire. Là encore, ce n'est pas original. Les choses se décident très, très rapidement. Quelle est, puisque on va lui reprocher, après on va lui reprocher encore finalement jusqu'à nos jours, quelle est sa position par rapport à la collaboration?
Alors, sa position, en fait, elle est assez claire. Jouvenel n'est absolument pas là où une approche déterministe aurait dû le conduire. C'est-à-dire qu'au fond, Jouvenel avait, si je puis dire, tous les attributs pour se retrouver dans le camp de l'ultra-collaboration, dans le camp du collaborationnisme. C'est d'ailleurs là que sont allés l'essentiel de ses amis, Jean Luchaire, Drieux, etc. Et de ce point de vue, Bertrand de Jouvenel l'a dit, et c'est exact, il n'a pas écrit dans la presse parisienne, même si au départ il devait être associé au journal économique Le Fait, et il n'a jamais collaboré au Nouveau Temps de Luchaire, etc., etc. Jouvenel s'est par la suite plutôt considéré comme un résistant. Alors là, je crois qu'il faut, là aussi, dans un autre sens, comment dire, corriger et rectifier, bien entendu, l'image qu'il donne de lui-même. Bertrand de Jouvenel, au début du conflit, lorsqu'il écrit notamment son célèbre ouvrage « Après la défaite », Bertrand de Jouvenel est au fond assez acquis à la personne du maréchal Pétain. Il pense très clairement que la collaboration risque d'être une impasse si on n'obtient pas de l'Allemagne un certain nombre de garanties précises. Et il est de ce point de vue-là plus lucide que beaucoup de gens de Vichy, dans la mesure où, au fond, il cherche régulièrement, en particulier dans les entretiens qu'il a avec Abetz, parce que les gens du deuxième bureau lui demandent de continuer à travailler, à rencontrer Abetz. Il explique les fois où il rencontre Abetz, au fond, que son problème est de savoir ce que l'Allemagne est prête à donner précisément au-delà des discours. Bon, il n'obtient évidemment pas plus de garanties que cela, mais il est au fond, au début de la guerre, en 41-42, plutôt proche de gens comme Dumoulin de Lapartheid, qu'il va rencontrer à Vichy, du Pucheux, ministre de la production industrielle, etc. Il travaille d'ailleurs avec Achille Dauphin-Meunier dans l'école d'organisation professionnelle, mais progressivement, évidemment, il prend conscience des difficultés de l'État français, de la situation, et lui-même connaît certains problèmes qui le conduisent, à partir de 1943, à quitter la France pour aller en Suisse. Là, il était installé en Corrèze, il voyait Malraux, il voyait Berle, etc. Il va quitter la France pour la Suisse en 1943. J'ajouterai que cette année 1943 est probablement le tournant de la vie de Bertrand de Jouvenel, car il décide à ce moment-là d'abandonner véritablement son passé de journaliste pour se transformer en penseur politique.
Alors, avant justement de passer à ce penseur politique, je souhaiterais encore un peu rester sur cette guerre. On ne peut pas vous redonner d'ailleurs la définition de la résistance. On ne peut pas non plus le qualifier de résistant au sens propre du terme, activiste, etc.
Pas du tout. Alors, ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que dans ses cahiers, dans son journal intime, il a rêvé d'un rôle qu'il aurait aimé tenir. Il se serait, explique-t-il, très bien vu en chef de maquis, etc. Mais alors, ça renvoie d'ailleurs à quelque chose de très important chez lui, qui est, au fond, la déception de ne pas avoir été, sur le plan politique, un acteur de premier plan de sa région, de la Corrèze.
Ouais, ouais.
Il a rêvé d'être le patron du PPF en Corrèze. Quand il a été envoyé faire du terrain, ça a été une catastrophe. Son passage aux armées n'a pas été brillant. Et imaginez Bertrand de Jouvenel en chef de maquis, ça a un côté presque cocasse, si vous voulez. L'homme n'était absolument pas taillé pour ça. Il l'a regretté, c'est une chose. Mais de toute façon, on l'y aurait assez mal vu. Et au fond, cet attentiste va se retrouver effectivement en Suisse dans une position où, cela étant, ses adversaires, eux, vont le voir comme un proche de la collaboration. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on va, au fond, lui prêter des attitudes qui n'ont pas été les siennes, jouer sur un certain nombre d'ambiguïtés en même temps bien réelles. C'est-à-dire que Bertrand de Jouvenel a eu des comptes rendus très favorables dans la presse allemande, qui, elle, se souvient toujours de l'entretien avec Adolf Hitler. Il a publié « Napoléon et l'économie dirigée » dans une maison bruxelloise qui est la Toison d'Or, qui est une maison acquise à la collaboration. Il y a un certain nombre d'éléments qui jouent, je dirais, plutôt en sa défaveur. Mais quand on regarde au fond son itinéraire, résistant, non, mais collaborationniste, sûrement pas.
Est-ce que justement dans ces petit révélateur, il y a aussi la remise en cause de la démocratie dans l'œuvre de Jouvenel, notamment la responsabilité de la démocratie dans l'échec de 1940.
Oui, de toute façon, quand on regarde les conférences de Jouvenel, ces conférences d'avant-guerre, notamment une conférence qu'il fait à Sciences Po, qui est tout à fait extraordinaire, on constate que Bertrand de Jouvenel, au fond, s'inquiète des faiblesses de la démocratie. Bon, c'est un thème récurrent. Et d'ailleurs, derrière les faiblesses de la démocratie, il y a aussi une très violente mise en cause chez lui des élites. Et cette mise en cause violente des élites, elle s'exprime en particulier dans son essai paru en 1941 qui s'appelle « Après la défaite ». Là aussi, une remise en cause violente des élites, c'est assez commun dans la France de 1940-1941, mais chez Jouvenel, c'est particulièrement accentué. Alors, j'ajouterais, cela étant, qu'il y a en même temps, toujours à la veille de la guerre et au début de celle-ci, une certaine fascination de Bertrand de Jouvenel pour les organisations et les régimes dictatoriaux, y compris d'ailleurs, à certains égards, la planification soviétique qui l'intéresse beaucoup. Et tout le tournant de Bertrand de Jouvenel, à partir de l'écriture de l'ouvrage du pouvoir, va être justement, en choisissant le libéralisme, de non seulement prendre ses distances avec toutes ces doctrines autoritaires ou totalitaires, mais en même temps d'exprimer ce qu'on dit assez peu quand on regarde de près son essai du pouvoir, d'exprimer chez lui une défiance vis-à-vis de la démocratie, car pour Bertrand de Jouvenel, c'est aussi la démocratie qui amène le régime des masses et donc qui peut amener ces régimes autoritaires ou totalitaires.
Alors on retrouve d'ailleurs cette idée de révolution, nous parlions tout à l'heure de révolution fasciste, et ce qu'il dit sur Hitler, c'est ce que Hitler a déchaîné contre nous, c'est une guerre civile européenne, une expression qui sera reprise par Nolte, une guerre de classe et une guerre de religion. Hitler est avant tout un révolutionnaire européen au service d'un triple objectif, réforme morale, domination politique, organisation économique. Et vous dites que ces images, malgré tout, restent très pauvres.
Oui, parce que Bertrand de Jouvenel, si vous voulez, particulièrement à ce moment-là, mais c'est d'ailleurs un peu resté chez lui un trait de son caractère, et c'est ce qui le distingue d'ailleurs profondément d'un homme comme Raymond Aron. Bertrand de Jouvenel, au fond, oui, quand je dis que c'est très pauvre, ce que je veux dire, c'est au fond, c'est un homme de métaphore. Et si je veux être très méchant, je dirais que la métaphore s'oppose au concept, si vous voulez. Et alors, c'est un homme de métaphore, c'est un homme de la formule. Effectivement, il a un certain nombre d'intuitions.
Oui.
Simplement, à ce moment-là, il les creuse assez peu. Quand, après la défaite, il oppose les Français boulistes contre les Allemands, bon, on serait les joueurs de boules face aux Allemands. Enfin, c'est quand même, pour le coup, là aussi, des réflexions un peu décevantes de sa part. Alors, par la suite, il va évidemment considérablement travailler, mais c'est quelqu'un qui, de par sa tournure d'esprit, sa formation, etc., a beaucoup de difficultés à conceptualiser. Et d'ailleurs, Du pouvoir est un livre, au fond, très empirique. Mmh. Hein. C'est un récit sur la genèse, etc., du pouvoir. C'est pas, même si le livre a été salué, en particulier par Hannah Arendt, elle y a retiré un certain nombre de choses et en même temps, elle les a repensées, elle, en philosophe, si je puis dire.
Olivier Dard, nous nous retrouvons après cette dernière pause.
Écoutez l'historienne Hélène Carrère d'Ancos raconter Nicolas II, le fils de Nicolas Ier, qui reste associé au printemps de la Russie. Écoutez également Hélène Carrère d'Ancos expliquer l'histoire de l'Académie française en tant que secrétaire perpétuel de cette Académie. Écoutez enfin son discours sous la coupole consacré à Pierre Corneille. Ces émissions sont en libre téléchargement sur canalacademie.com.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à l'écrivain, au journaliste et au penseur Bertrand de Jouvenel. Je reçois Olivier Dard, auteur d'une biographie sur le personnage, une biographie parue aux éditions Perrin. Nous entamons, Olivier Dard, une partie qui est très importante puisque c'est celle qui va rester sur le plan intellectuel dans la postérité, et notamment ses fameux essais fondateurs du pouvoir et de la souveraineté. Ce sont des ouvrages qui sont très importants, qui vont être salués d'ailleurs sur le plan international. Comment Jouvenel passe de cette analyse plus ou moins bon de la vie politique européenne à des ouvrages de théorie politique?
Alors, c'est quelqu'un qui se met à travailler, tout simplement. Bertrand de Jouvenel, qui a été pendant 20 ans une sorte de dandy assez mondain, il faut bien le dire, aimant, la bonne vie, etc., etc., à partir de 1942-43, se met...
Il a 40 ans.
Il a 40 ans, c'est l'heure des bilans. Et le bilan qu'il dresse de sa vie privée est, de son point de vue, désastreux. Il se reproche énormément de choses et il est également extrêmement dur vis-à-vis de lui-même. Alors là, on le sait parce que là, on a des textes très contemporains. Il est également très dur vis-à-vis de lui-même et de ce monde du journalisme, en disant « mais c'est un monde de la superficialité, etc. etc. » Et à partir de là, il aspire à devenir autre chose. Il se fixe d'autres objectifs et, je le disais, il se met à travailler. Il est quelqu'un qui lit beaucoup, qui prend beaucoup de notes, et là, dans ses cahiers de travail, on le voit véritablement à l'œuvre, et cela va lui permettre, effectivement, d'écrire successivement deux essais qui sont fondamentaux, du pouvoir, dont on va bien sûr reparler, et de la souveraineté, dont je signale juste, quand même, à l'attention de nos auditeurs, que c'est un livre aujourd'hui malheureusement introuvable, qui n'a jamais été réédité. Et je trouve que c'est extrêmement dommage et je le dis publiquement.
Donc ce n'est pas aux auditeurs que vous le dites, c'est aux éditeurs.
Voilà, aux auditeurs et aux éditeurs. Il y a peut-être des éditeurs parmi les auditeurs. Alors, du pouvoir, je pense qu'on va y revenir. C'est un livre à la fois très important sur le fond. C'est un livre très important aussi de par l'aura qui est celle de Bertrand de Jouvenel après son écriture. Car Bertrand de Jouvenel est un penseur politique qui va être bien davantage connu à l'étranger et notamment dans le monde anglo-saxon, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, qu'en France.
Alors justement, quelle est la nature de sa réflexion ? Nous évoquions tout à l'heure, dans son engagement radicaliste, le besoin de réforme de l'État, le rationalisme de l'économie, le besoin de paix en Europe. Quelle est la nature de cet ouvrage ? Est-ce un ouvrage exclusivement sur l'État ?
Alors, non, pas exclusivement sur l'État, même si c'est au cœur, évidemment, de la problématique. Bon, du pouvoir, si vous voulez, il a été lu, commenté par un certain nombre de philosophes politiques, notamment en Italie. Mais du pouvoir, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est un ouvrage né de la guerre. C'est-à-dire que Bertrand de Jouvenel, au fond, lorsqu'il commence du pouvoir, commence d'ailleurs par ce qui va devenir le chapitre 7 du livre. Il commence par des réflexions sur Adolf Hitler et il explique qu'au fond, la mise à l'écart d'Adolf Hitler ne changera rien à un phénomène qui, pour lui, est un phénomène extrêmement profond, qui est effectivement la montée en puissance du pouvoir, ce qu'il appelle le Minotaure. On retrouve de nouveau cette question des métaphores. La montée en puissance du Minotaure, dont il se propose de dresser un panorama historique depuis les origines. Alors, cette démarche de Bertrand de Jouvenel, elle est extrêmement importante, évidemment, par rapport à la question de l'État, de l'autorité, des institutions. Elle est également importante par rapport à l'économie et au social. Et le livre de Bertrand de Jouvenel, évidemment, fait écho tout à fait précisément à un autre texte qui paraît à la même époque et que Bertrand de Jouvenel ne connaît pas encore à ce moment-là, qui est « La route de la servitude » de Friedrich Hayek. Voilà, les deux hommes vont se connaître et se rencontrer longuement par la suite, mais à l'époque, ils ne se connaissent pas. Et Bertrand de Jouvenel, au fond, s'inquiète de la montée en puissance de l'économique et du social dans les sociétés européennes et du rôle de l'État en particulier, considérant que, alors là, c'est très nouveau chez lui, que l'atteinte aux libertés économiques et sociales est indissociable de l'atteinte aux libertés politiques. Il dit au fond, si l'État s'occupe de notre vie sur le plan économique et social, c'est extrêmement préjudiciable à nos libertés, etc., etc. Et c'est en cela d'ailleurs que Jouvenel s'impose comme un auteur qui est beaucoup plus un libéral qu'un démocrate. J'insiste là-dessus. Et j'ajouterai un dernier point, c'est que Bertrand de Jouvenel, je le disais, a énormément lu pour écrire cet ouvrage et il a en particulier lu beaucoup d'auteurs anglo-saxons. Bon, il faut savoir que Bertrand de Jouvenel lit l'anglais, l'écrit couramment. Il a écrit d'ailleurs beaucoup de choses en anglais qui n'ont jamais été traduites en français. Et Bertrand de Jouvenel a une connaissance de l'histoire du libéralisme anglais tout à fait impressionnante. Donc il a, si je puis dire, à cet égard, une double culture. C'est-à-dire qu'il cite effectivement tous les libéraux français, Tocqueville, Constant, etc. Mais il va également beaucoup travailler à partir de Stuart Mill et d'un certain nombre d'autres. Ce qui va d'ailleurs rendre Bertrand de Jouvenel très accessible à un lectorat anglo-saxon qui va finalement se retrouver sur des problématiques et avec des questionnements qu'il est à même d'appréhender, puisque Bertrand de Jouvenel, finalement, est un Français, un des rares Français de l'époque qui sait parler en anglo-américain.
Est-ce qu'il y a une fatalité? Vous citiez, enfin, vous disiez qu'il l'empruntait à Tocqueville, et au fil de la lecture de votre ouvrage, hein, on voit hein, ces idées tocquevilliennes parfois. Est-ce qu'il pensait qu'il existait une linéarité de l'histoire, une fatalité dans l'histoire, un mouvement inexorable? Un peu au fond, comme nous disions précédemment, il considérait qu'il y avait la Révolution luthérienne, la Révolution française, puis ensuite la Révolution fasciste. Est-ce qu'il y a un mouvement inéluctable contre lequel l'homme ne peut pas agir?
Alors, vraie question, je crois qu'il l'a pensé à un moment. Il l'a pensé à un moment, peut-être, effectivement, dans l'entre-deux-guerres. Par la suite, non, ce qui va d'ailleurs motiver ses ultimes engagements. Mais si Bertrand de Jouvenel ne pense pas qu'il y ait un déterminisme historique, en même temps, il a pensé, et il a toujours pensé, ce qu'il distingue fondamentalement de technocrate ou d'ingénieur économiste comme Jean Forastier, par exemple, il a toujours pensé que l'histoire était tragique. Et il n'a jamais pensé, par exemple, qu'une économie du bien-être, une amélioration du niveau de vie, etc., etc., était de nature à empêcher, au fond, l'histoire de devenir tragique. Et je pense ici à une citation extrêmement intéressante de Forastier, qui, pour le coup, sur ce plan, est aux antipodes de Jouvenel, ce qui n'est pas le cas, évidemment, surtout. Quand Forastier, par exemple, écrit en 1947, dans La civilisation de 1960, qu'à l'avenir, grâce à la croissance, la productivité, etc., les guerres ne seront plus que des rixes d'ivrognes. Bertrand de Jouvenel, lui, va penser que la croissance économique, etc., peut permettre un certain bien-être pour peu qu'elle soit maîtrisée, etc. Mais à aucun moment, il ne pense que l'histoire est finie. Donc pas de déterminisme, mais pas non plus de fin de l'histoire chez Bertrand de Jouvenel. Oui.
L'homme peut agir sur son environnement, oui. On le verra notamment dans son engagement écologique plus tard. Ce qu'il y a d'intéressant et aussi, oui j'allais dire, novateur dans sa pensée, c'est qu'il écrit « On ne saurait condamner les régimes totalitaires sans condamner avec eux la métaphysique destructrice qui a rendu leur avènement inévitable. Elle n'a voulu voir dans la société que l'État et l'individu. Elle a méconnu le rôle des autorités morales et de tous ses pouvoirs sociaux intermédiaires qui encadrent, protègent et dirigent l'homme, évitant et empêchant l'intervention du pouvoir. » Là, on retrouve un peu la théorie de Tocqueville sur les pouvoirs intermédiaires, mais on retrouve également l'idée que les totalitarismes trouvent leurs origines, au fond, dans l'individualisme du XVIIIe siècle.
Absolument. Et j'ajouterais entre-temps, un petit clin d'œil qui n'en est pas vraiment un, parce que c'est tout à fait fondé, que Bertrand de Jouvenel avait, à la veille de la guerre, lu un peu Maurras, qui avait d'ailleurs beaucoup abusé Thierry Molnier, qui lui avait dit de continuer, de faire des efforts en la matière. Mais effectivement, on retrouve cette idée à la fois chez Tocqueville et chez un certain nombre d'auteurs d'une droite intellectuelle sur le lien indissociable entre le XVIIIe siècle, la modernité et les totalitarismes.
Alors, plus original, hein, il fait un lien entre le New Deal et même un Roosevelt et le nazisme. Alors, ça existe chez un personnage comme Bainville, qui, dans Les Dictateurs, présentait Roosevelt comme un dictateur avec sa politique économique. On est vraiment sur la même ligne de pensée.
Ah, sur ce plan-là, oui. Mmh. Sachant d'ailleurs qu'on peut inverser les thématiques, enfin, les acteurs. Mussolini, par exemple, disant de son côté, je crois que je le disais tout à l'heure, que Roosevelt, au fond, appliquait à travers son New Deal quelque chose que le fascisme italien ne renierait pas. Ce qui me permet de faire une toute petite remarque et une incise par rapport à ce que vous disiez au début de l'émission sur Sternel et sur Mosley, la comparaison avec Mosley. La comparaison avec Mosley, sur le plan de l'homme politique, elle ne tient absolument pas. Mosley est un homme politique fondamental de la Grande-Bretagne de l'entre-deux-guerres. C'est un grand espoir du Parti travailliste qui va choisir un autre itinéraire et qui va, d'un certain point de vue, voir sa carrière politique s'effondrer parce qu'il va faire de mauvais choix. Mais Mosley était un véritable acteur politique, ce que n'a jamais été Jouvenel. En revanche, là où c'est intéressant, on retrouve cette idée, par rapport au fascisme, du rapport entre l'économie, le socialisme et l'attraction pour le fascisme. Il est évident que, de l'instant où Bertrand de Jouvenel considère qu'au fond, l'économie, ce n'est plus l'affaire de l'État, ou ce ne doit plus être exclusivement l'affaire de l'État, que l'idée de révolution économique et sociale doit quand même plutôt être abandonnée. À ce moment-là, ce qui l'attirait vers le fascisme, évidemment, se rétracte, disparaît, et il se retrouve, évidemment, ipso facto, sur d'autres positions, et en particulier en matière économique, sur une position libérale, libérale chez lui, qui d'ailleurs n'est pas non plus le culte du marché. J'insiste là-dessus.
Alors Olivier Dard, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission, il nous reste à peine 5 minutes. Peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, est-ce qu'on peut qualifier Jouvenel d'opportuniste ?
Non, enfin, ça me paraît une vision à courte vue, bien sûr. On a le sentiment d'une espèce de girouette. Quand on regarde son itinéraire, on se dit, mais il est passé du fascisme au libéralisme, puis à l'écologie. Bon, il a survécu à toutes les modes, bon, comme on le dit d'un certain nombre de chanteurs. Non, je crois que c'est une vision à très courte vue. Ce qui, en revanche, est intéressant de noter, c'est que Bertrand de Jouvenel est au fond quelqu'un qui est perpétuellement en quête de quelque chose. Ça, c'est un, alors là, pour le coup, un vrai trait de son caractère. L'innovation, pour lui, est quelque chose de fondamental. Il vit constamment projeté dans l'avenir. Il a également, autre élément intéressant chez lui, et là qui lui vient du journalisme, une certaine acuité à penser les enjeux du temps, ou du moins à ressentir. Ce n'est pas d'ailleurs que les conclusions qu'il tire sont forcément les bonnes, on l'a vu, mais il a clairement conscience d'un certain nombre d'enjeux fondamentaux du temps. Et même dans un ouvrage aussi théorique que La Souveraineté, on retrouve des tas d'éléments tout à fait contemporains pour ses lecteurs, ce qui va évidemment lui permettre d'avoir l'aura que l'on sait, notamment aux États-Unis. Alors, cela étant, cette quête perpétuelle d'innovation va le conduire à la fin des années 50, effectivement, à rechercher d'autres voies. Et je pense qu'on va peut-être dire un mot, effectivement, de son dernier passage du côté de l'écologie politique, qui n'a rien d'une lubie chez lui, hein, qui est le produit d'une réflexion, assurément.
Mmh. Oui, vous dites qu'il a un questionnement, au fond, décalé sur la question, mais il en fait une force, il la transforme en force.
Absolument. Alors, il a un questionnement décalé sur la question pourquoi ? Parce que, au fond, Bertrand de Jouvenel n'a pas lu les auteurs fondamentaux de l'écologie et, au fond, essayer de réfléchir sur le point de savoir si c'est un écologiste, fondamentaliste, pas fondamentaliste, etc., bon, ça n'a guère de sens. Il vient à l'écologie par sa propre démarche, qui est, au fond, une démarche, une réflexion sur l'économie. Bertrand de Jouvenel a lu Pigou dès les années d'entre-deux-guerres. Il va continuer à le lire et l'approfondir. Et ce qui l'intéresse, c'est la relation entre l'économie et l'écologie, toute la question des externalités et tout le problème, au fond, de savoir quels sont les inconvénients liés à une production. La croissance économique, dit-il, c'est très bien, il ne s'agit pas de la supprimer. Et à la différence des auteurs du rapport Meadows, il va violemment s'opposer à l'idée de croissance zéro. Mais en même temps, il dit attention, la croissance économique a un certain nombre de limites, de défauts contre lesquels il faut lutter. Et effectivement, il est à cet égard extrêmement novateur. Il va puiser beaucoup de références en Angleterre et aux États-Unis. Il est intéressant de noter que lui, dans les années 60, il propose la taxe pollueur-payeur, ce qui est quand même extraordinaire. On est en début des années 60. Il ne l'invente pas, il l'amène d'Angleterre, enfin quand même pour des contemporains. Il propose de réfléchir à une réforme de la comptabilité nationale en disant mais il faut prendre en compte toutes les dimensions négatives liées à cette croissance économique et le coût environnemental qu'elle représente. Ce qui, évidemment, vu l'époque, paraît curieux à un certain nombre de ses interlocuteurs. Et puis, j'ajouterais que il va aussi se faire le chantre de l'environnement, de la défense de l'environnement. Il a été très ému par les premières marées noires, etc. Et d'un certain point de vue, je crois que sans forcer trop le trait, Bertrand de Jouvenel peut être considéré comme un des fondateurs lointains, non seulement de l'expression écologie politique, bon, ça on le sait, mais peut-être de ce qu'on appelle aujourd'hui un peu rapidement, enfin bon, le développement durable. Je crois que Bertrand de Jouvenel aurait eu toute sa place au sein des débats sur le Grenelle de l'environnement et sur le développement durable. Et je crois qu'il faut relire Arcadie.
Homme d'avenir, donc, comme le disait Raymond Aron. Justement, on reste, si vous me permettez, Olivier Dard, très frustré, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à voir sur ce personnage. C'est pour cette raison que je ne peux qu'inciter donc, les auditeurs à acheter donc, cette biographie parue aux éditions Perrin, Bertrand de Jouvenel. Il y a notamment la question des rapports avec Raymond Aron. Est-ce que Bertrand de Jouvenel propose des remèdes à la suite de ses essais d'après-guerre ? Voilà. Merci beaucoup, Olivier Dard.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire. Thank you.